Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Auditrices et auditeurs de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans Libre Débat. Quel est l'impact du racisme systémique sur l'école? Comment lutter contre? Le 24 novembre 2023, la librairie associative et militante Transit organisait une présentation du livre « Entrée en pédagogie antiraciste ». Ce livre a été publié par Chède Éditions, maison d'édition marseillaise qui publie des essais de critique sociale et politique et des livres pour enfants. Ça s'est passé dans les locaux de Solidaire devant un public très attentif. Enseignants, enseignantes, AED, syndicalistes, militants et militantes antiracistes, curieux et curieuses, la salle était plus que pleine pour écouter Madiga, Karim, Wouyem et Wihem, quatre des auteuristes de cet ouvrage collectif. Tous les quatre enseignants, enseignantes, engagés dans la création d'outils pédagogiques antiracistes dans le cadre de Sud Éduc 93, ils et elles sont venus ce jour-là à Marseille pour raconter leur histoire de partage d'expériences, de lutte, de répression et le travail collectif qui a donné naissance à ce livre. Entrée en pédagogie antiraciste propose des analyses théoriques et des outils pédagogiques pratiques pour lutter contre le racisme systémique au sein de l'éducation nationale. Bon, pour des soucis techniques, on entend moins bien les questions du public et l'enregistrement s'arrête avant la fin de la présentation. Cela dit, ça reste un moment précieux à partager et je vous souhaite une bonne écoute.
Comme ça vous a été dit, ce livre, c'est un peu notre bébé à toutes et tous ici à la commission antiraciste après trois stages et trois années de travail. Et dont un premier stage qui a été un stage un peu inédit dans le milieu syndical, puisque c'est un stage qui, pour la première fois, adressait la question du racisme systémique à l'école à travers des outils pour le premier degré et le second degré. Parce que jusqu'à présent, on avait eu des stages de formation, mais qui étaient plutôt dirigés vers la recherche ou en tout cas vers le supérieur. Il y en avait eu un à l'UPEC avant notre stage, qui était plutôt du domaine de la recherche. Nous, notre stage, il était vraiment dirigé vers comment nous, personnel d'éducation, qui enseignons tous les jours à des enfants de tous âges, comment en fait on lutte contre la première discrimination qu'ils vivent en arrivant dès le plus jeune âge, qui est le racisme. Et donc ce premier stage-là, c'est un petit stage local, on l'a monté entre nous. Au départ, c'était trois personnes qui étaient blanches qui s'étaient dit bon, on va monter son stage-là. Très vite, elles se sont rendues compte que c'était pas possible de monter un stage sans les personnes concernées, sans les personnes qui subissent aussi le racisme chez les personnels d'éducation. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a lancé cette commission antiraciste. Et ce premier stage-là, comme l'a dit Laura, a rencontré un très fort succès, notamment chez la frange facho qu'on connaît bien, qui tout de suite s'en est emparée en fouinant un peu sur les réseaux. Ils ont trouvé notre plaquette de stage et tout de suite cette plaquette, elle a, voilà, ça mis le feu aux poudres parce que ils s'en sont emparés en disant oh là là, ça parle de racisme systémique. Et il y avait aussi la question des ateliers en non-mixité. Ça, c'était les deux questions qui tout de suite dont tout de suite se sont emparés la fachosphère et d'autres. Et c'est remonté tout de suite à nos gouvernants. Et Michel Blanquer s'est emparé de cette question d'abord du racisme systémique, donc racisme d'État, a annoncé d'abord qu'il porterait plainte contre le syndicat. Il l'a annoncé à l'Assemblée nationale. Et c'est quand même important pour l'anecdote de vous raconter que son annonce a été applaudie par l'extrême droite comme par l'extrême gauche, en fait. Tout le monde, il y a eu une ovation face à cette annonce de plainte contre notre syndicat par tout le monde. C'est pour vous dire un peu le contexte, voilà, et comment la fachosphère dirige un peu les médias, mais aussi la sphère politique. Et donc, suite à cette plainte, nous, on a dû s'organiser. Et on a eu une médiatisation de nos stages qui n'était pas forcément attendue. Ça a été compliqué pour nous de gérer à la fois les attaques, mais ça a été très bénéfique d'un autre côté parce que, en fait, ça a permis de vraiment publiciser notre stage. Et on a eu tout un tas de demandes d'enseignants qui voulaient s'inscrire. On a dû augmenter la jauge du stage. On avait, je ne sais plus, on avait 80 inscrits, je crois, un truc comme ça. On a dû passer à 150. On a dû trouver des petites solutions pour pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Et notre stage a connu, en fait, beaucoup de succès. Et c'est ce qui a fait que, par la suite, on s'est dit qu'on allait continuer aussi une deuxième et une troisième version du stage. Voilà comment s'est fait un peu le premier stage. Et on avait cette question des ateliers en non-mixité parce qu'il nous semblait important de pouvoir avoir des endroits de travail, des endroits de discussion, des endroits d'outillage entre personnes concernées qui subissent le racisme et donc en non-mixité raciale. Ça a été la deuxième plainte de Blanquer parce qu'il a été débouté de sa première plainte. Il ne pouvait pas porter plainte contre une personne morale déjà. Et en plus, ça aurait été très difficile pour lui de prouver qu'il n'y a pas de racisme systémique. Donc sa première plainte est tombée à l'eau, mais le ministre de l'Éducation n'en est pas resté là. Et il s'est dit qu'il allait porter plainte une seconde fois pour discrimination. Il faut entendre discrimination envers les Blancs, qui on aurait refusé l'accès aux ateliers en non-mixité. Il faut savoir que sur... je ne sais plus, il y avait énormément d'ateliers, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait une vingtaine d'ateliers. Et sur cette vingtaine d'ateliers, il y en avait deux, ouais, c'est ça, deux qui étaient en non-mixité. C'est sur ça qu'a cristallisé la deuxième polémique, qui a été traduite par Sud Éducation 93, discrimine les Blancs, refuse l'accès aux Blancs, etc. dans les stages. Cette plainte, elle a donné lieu à des auditions au commissariat, donc on a été plusieurs... membre du syndicat à être auditionné. Et cette audition, on nous a tout de suite dit en fait, écoutez, si ça venait pas d'en haut, c'est ça la phrase qui a été dit, si ça venait pas d'en haut, on n'aurait aucun moyen matériel, en fait, de poursuivre ce qu'on est en train de faire là, en fait. Parce que personne n'avait porté plainte, parce que le dossier était vide, quoi. Mais comme ça venait d'en haut, forcément, voilà. Ça a donné lieu à des auditions très drôles, je dois vous le dire, parce qu'en fait, on avait une... Mais tout ça est très bien raconté dans le livre, mais on avait une brigadière qui s'est auto-formée sur les questions pendant qu'elle posait les questions. Donc, elle nous a demandé ce que c'était que la blanchité, ce que c'était que le racisme systémique, ce que c'était que la non-mixité, etc. La deuxième plainte est aussi tombée à l'eau. Après ça, on a mené le deuxième stage et on a eu une autre plainte de 5 députés LR qui ont porté plainte à nouveau pour la discrimination et pour la poursuite d'un objet politique. La poursuite du syndicat d'un objet politique. Leur plainte n'a pas abouti aussi parce que c'était un dossier très fragile. Un syndicat peut poursuivre un objet politique et d'ailleurs c'est même le but des syndicats. Donc c'est une plainte très tirée par les cheveux, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et comme c'est pareil, comme c'est des députés, forcément il fallait donner suite à ces plaintes-là. Donc c'est pour vous dire aussi comment le pouvoir, en fait, a tous les droits. C'est-à-dire que même sur des questions de droit, de justice, etc., on a des pouvoirs qui sont des bulldozers, en fait, et qui font fi de toutes les technicités auxquelles nous, on a le droit quand on essaye de porter plainte ou machin, etc. Nous, c'est pas possible. Mais quand ça vient d'en haut, cette fameuse expression que je reprends parce que la brigadière l'avait utilisée, quand ça vient d'en haut, en fait, là, pour le coup, on s'en fiche de si le dossier est solide, s'il y a quelque chose, etc. Il faut le faire. Donc, ils ont porté plainte pour ça. Ils ont perdu. Et là, ils font appel. Et tout ça, ça a commencé en 2017. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans des procédures avec cet appel-là des députés LR qui est toujours en cours. Voilà un peu pour l'historique. Voilà, comme ça, vous avez un peu le cadre.
Moi, je veux bien compléter peut-être sur le cas. Du coup, on a, malgré les plaintes, mené 3 stages. À Sud Éducation 93, où il y avait énormément de discussions, des interventions extrêmement variées, à la fois des sociologues, à la fois des personnels, des parents d'élèves. L'idée, c'était vraiment de décrypter le racisme qui se manifeste à l'éducation nationale et aussi de réfléchir collectivement à des outils de pédagogie pour lutter contre le racisme dans nos classes et dans nos établissements. Voilà, des stages extrêmement riches. Entre le deuxième et le troisième stage, on a été contacté par la maison d'édition Shed Publishing qui venait de se monter à l'époque, dans l'idée en fait d'archiver tout ce travail-là et en fait de donner accès à tous ces outils-là qui avaient été discutés, pensés, mis en place, de permettre que ce soit diffusé dans une plus grande échelle, en fait. Et donc, tout ce travail aboutit à un ouvrage avec ses 26 contributeurs et contributrices, des textes extrêmement variés dans la forme. sur les trois stages, 87 intervenants. Et en fait, comment est-ce qu'on a construit cet ouvrage? Le premier et le deuxième stage, en fait, on ne les avait pas enregistrés. Il y a eu tout un travail où on a dû aller reprendre contact avec les intervenants et intervenantes pour reconstituer, reconstruire des archives, d'où aussi la diversité des discours. En fait, il y a des reconstructions d'archives qui ont été faites sous la forme d'entretiens. Il y a parfois des intervenants et intervenantes qui ont renvoyé les textes de leur intervention. Et le troisième stage, du coup, comme on savait qu'on était déjà dans le travail avec la maison d'édition, il a été enregistré. Et là, du coup, pour la construction des archives, c'était un peu plus simple. Ce bouquin, il est vraiment issu de ces stages de formation syndicale. L'idée, c'est vraiment d'archiver un travail qui a été fait pour qu'il soit diffusé et que ça reste, en fait, durablement dans les outils qu'on peut mobiliser pour mener nos luttes antiracistes.
Nous, avec William, on est dans le premier degré, parce qu'on s'est peut-être pas présenté aussi, il me semble, mais voilà. Donc, je suis dans le premier degré personnellement, enseignant à Saint-Denis, en 93. Pareil pour toi.
Moi, je suis prof de sciences économiques et sociales, dans le 93 aussi, en lycée, du coup.
Moi, je suis prof d'anglais en collège, dans le 93, à Nozillesec, dans le collège où j'ai été élève.
Et donc, avec William, on a coécrit un article sur la manière dont on peut travailler avec les plus petits et les plus petites sur les questions d'antiracisme. Tous les deux, on est enseignants et enseignantes avec des pédagogies alternatives. Toi, vraiment freiné. Moi, je m'en inspire, mais je ne suis pas vraiment freiné. Ce qu'on a décidé de faire tous les deux, c'est de rejoindre un peu les manières dont on travaille dans nos classes pour questionner les questions de race avec nos élèves. Et je vais pas parler de tout l'article exactement parce que voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est de partir sur trois axes principaux. Le premier, c'est de travailler avec les élèves sur les questions de représentativité positive. Donc nous, dans nos classes, on essaye en fait au maximum d'avoir des représentations de personnages racisés grâce aux bibliothèques, grâce aux personnes qu'on invite dans les classes, par exemple les intervenants, les médiateurs, médiatrices culturelles ou les personnes qui vont présenter leur métier, etc. Le deuxième point, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de travailler en lien avec les familles et de valoriser les vécus des élèves et de leurs familles, de montrer que leurs vécus sont aussi importants et qu'ils peuvent, ils et elles peuvent apporter des choses à l'école, des connaissances. Donc, je vais donner peut-être un petit exemple. Moi, pour le coup, ce que j'ai essayé de faire avec les familles, c'est que j'ai monté un jeu de société type Trivial Pursuit à partir de goûters que je faisais avec les élèves et les familles. Donc, le but, c'était de discuter un peu avec les familles et de parler de leur parcours migratoire, de leur histoire, etc. et de monter un jeu à travers toutes les questions qu'on s'était posées ensemble.
Peut-être sur les outils encore ? En gros, moi, en tant que pédagogue sur la pédagogie freinée, j'ai décidé de ne plus utiliser les outils qui sont enseignés, ou en tout cas, nous, dans notre formation à l'UFM, enfin, proposés par l'institution. Car ces outils-là qu'on critique dans le livre, toute cette fabrication-là et tout ce savoir-là, c'est un savoir colonial. Sur la représentativité, par exemple, on voit très bien que dans ces manuels-là, tout ce qui est représenté à chaque fois dans les personnages... ceux qui sont dans des positions de pouvoir valorisées, ce sont toujours les personnages et les personnes blanches. Nous, avec Karim, on essaye de faire tout le travail qui est de visibiliser nos histoires, nos luttes. Par exemple, ce que je fais dans ma classe, c'est je fabrique par exemple des cartes d'anniversaire que j'offre à mes élèves où je les félicite parce qu'ils sont nés le même jour qu'une autre personne importante qui fait partie de la même communauté que mes élèves, personne non blanche, qui a compté dans l'histoire parce qu'a lutté. Ou alors des moments de lutte collective. Très souvent, il y a cette idée que ce qui change le monde, c'est toujours une figure héroïque, une seule personne, un peu comme ce qu'on voit dans les films. Où ça va être une personne qui va délivrer le monde du mal. Et ça, pour moi, c'est une image un peu occidentale. Alors, ce qui fait les luttes, ce qui fait qu'on gagne des droits et des libertés, c'est que des luttes collectives, en fait, à la base. Et ce qui est difficile pour nous, c'est que ce travail-là, on doit le mener d'une façon très isolée, parce que vraiment, il n'y a aucune production, que ce soit à l'UFM, que ce soit dans nos salles de profs, où carrément, c'est un impensé, en fait, l'histoire du racisme. C'est vraiment, en fait, il y a un mythe qu'il faut déconstruire, qui est celui de cette école républicaine, où, en fait, quand on passe la porte de l'école, il n'y a pas de racisme, en fait, parce que l'école est républicaine. Le chapitre de Nassira Ghanif parle très bien de comment on racialise les enfants, comment, en fait, elle fait une très bonne définition de qu'est-ce que c'est qu'un élève racisé. Mais il y a plein d'autres chapitres où, enfin, on ne peut plus dire que l'école n'est pas raciste en réalité, parce que si on regarde avec la carte scolaire, comment, en fait, on fabrique des établissements où on va produire de la ségrégation, en fait, sociale, mais liée à la question raciale. Il y a un chapitre qui explique aussi très bien comment on fait l'orientation scolaire, comment, en fait, on va orienter les élèves racisés vers des filières professionnelles, etc. Enfin, comment on va... Nous, on appelle ça la désorientation, en fait. Voilà. Et que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré, en tant que personnel d'éducation racisé, on doit à la fois se mobiliser dans les savoirs pédagogiques, mais aussi dans tout ce qui est administratif, dans nos salles des maîtres-maîtresses, dans les salles des profs, où en fait, on fait face aussi à nos collègues qui ont des biais racistes et qu'ils ignorent. Et je pense que tous ces moments-là de vie qui sont compliqués pour nous en tant qu'enseignants et enseignantes, compliqués pour nos élèves parce que c'est un public qui subit ce racisme-là, qui subit aussi les violences des adultes, parce que le corps enseignant fabrique aussi de la violence. Peut-être on abordera après tout à l'heure, mais aussi dans la formation traditionnelle, comment, en fait, on apprend aux enseignants à être des petits chefs et à violenter nos élèves. Et puis, l'accueil des parents aussi, qui ne se fait pas de la même façon si on est un parent blanc ou un parent non blanc, en fait. Il y a vraiment une méprise de ce public-là, il y a une méprise des savoirs. Bon, le livre fait 400 pages et peut-être c'est mieux de l'acheter. Et... Non, mais je pense que, voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes dans le public qui ont lu, mais en tout cas, voilà, je ne peux pas, dans une petite intervention courte, dire comment il est très important. Et aussi, en fait, on a ajouté de nos outils qu'on peut retrouver dans certains moments, dans les ateliers ou dans les plénières. Et puis, il y a la partie dont elle a parlé, UIM, sur la répression. C'est la commission antiraciste qui l'a écrit. Et aussi, on a voulu faire un autre chapitre sur pourquoi on lutte, pourquoi l'antiracisme dans le syndicat. Et du coup, on fait le lien avec qu'on a appelé antiracisme et syndicalisme pour parler un petit peu des luttes de l'immigration et comment, en fait, l'antiracisme a été vécu par nos anciens, en fait, par nos parents et nos grands-parents en tant que personnes issues de l'immigration qui sont venues en France, quoi. Voilà ce que je peux dire, si ça va.
Je peux peut-être justement appuyer sur ce que vous étiez là par rapport à ce que vous disiez par rapport aux anniversaires. Je ne sais pas si c'est toi ou pas, qui cherchait à chaque fois quelqu'un ou un scientifique. Et alors, je ne sais pas, peut-être Karim, parce que je crois que c'est au... qui a cherché des heures entières pour trouver un anthropologue ou un ethnologue qui ne soit pas blanc. C'est juste pour dire qu'effectivement, à l'école, effectivement, il y a du racisme, il y a un racisme systémique, mais qui est... global, et qu'effectivement, même en essayant de travailler là-dessus et de trouver des personnages qui soient raccord avec les élèves que vous avez, c'est hyper compliqué.
Ce qui est important à souligner, c'est qu'effectivement, c'est hyper chronophage, en fait, de créer ces outils. Ce qui est vraiment le plus compliqué dans notre métier, c'est de pouvoir créer ces outils-là. On peut passer des heures à chercher justement les personnages selon les métiers, etc., des personnages racisés, mais pas que. Je pense par exemple à l'histoire. En CM1, on est censé parler de l'histoire coloniale. Et donc le chapitre s'appelle « Le temps des grandes découvertes ». Déjà, encore. Voilà. Et moi, à chaque fois, j'ai vraiment un gros souci pour pouvoir donner des cours d'histoire des coloniaux avec des enfants parce qu'il y a très peu d'outils. Il y a même aucun outil quasiment. Il y a un livre sur l'histoire précoloniale africaine. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui est destiné aux 6-12 ans. C'est le seul livre que je connais. Sinon, tout le reste, en fait, on le crée. Et pour le créer, il faut en général prendre des textes pour les élèves plus âgés et les retravailler pour qu'ils soient accessibles à nos élèves. Par rapport à ça, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, il nous semble aussi important de proposer aux élèves des apprentis sociologues aussi, de questionner les rapports de race, les rapports de genre directement. Je vais donner un exemple, ce sera plus simple. Mais par exemple, si on veut travailler sur les manuels scolaires et montrer que ces manuels scolaires sont racistes, on va essayer de travailler avec eux et de proposer de voir en fait à quel point les personnages racisés ont telle ou telle fonction dans les livres, etc. Et donc on leur apporte pas le savoir directement comme ça, mais on essaye justement de travailler avec elles et eux pour pouvoir répondre à leurs questionnements en devenant des apprentis sociologues.
Par rapport à cette anecdote, ce que je trouve intéressant, c'est de dire aux élèves la vérité, de dire en fait qu'on galère à trouver ces ressources-là, parce que du coup ça fait un matériau d'analyse, parce qu'eux-mêmes, ils vont se demander, mais pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi ? Et du coup, ça amène à la question de la représentativité dont parlait Karim, sur le fait qu'on est noyé par des images positives de personnes blanches qui font des métiers perçus comme nobles, alors que pour nous, en tant que personnel racisé, ben, on n'en a pas autant. Et que ça, ça ouvre des possibilités pour nos élèves, que nous, on n'a pas eu enfant, parce que moi, je ne me serais jamais pensé un jour devenir archéologue ou ethnologue ou je ne sais pas quoi, parce que jamais j'ai pu rencontrer ces figures-là. Et du coup, ils vont plus se dire comme nous, ce n'est pas fait pour moi, ils vont dire si, c'est fait pour moi. Et sauf que la société est injuste, ça va me donner la motivation, ça m'ouvre des portes. Voilà.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des cochons.
Il y avait des vaches et des cochons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
À l'endroit où se trouvent.
Adieu
vaches et cochons, ferme et forêt.
Pierrette achète son lait au supermarché.
Pierrette achète son lait au supermarché.
Si tu veux te construire une belle villa.
Si tu veux te construire une belle villa.
Va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi.
Va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi.
On dit que c'est un quartier mal fréquenté. C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés.
C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés.
Les immigrés travaillent sur des chantiers.
Les immigrés travaillent sur des chantiers.
Et construisent des maisons pour les Français.
Et construisent des maisons pour les Français.
Les flics nous font monter dans leur fourgon.
Les flics nous font monter dans leur fourgon.
Et nous
dans l'idée, ce que je trouve intéressant, c'est d'inviter les familles à l'école à parler, en fait. Par exemple, je suis d'origine algérienne et j'ai eu aussi un gros tabou dans ma famille. On m'a jamais parlé de l'histoire coloniale, ou très peu, de l'histoire migratoire et tout, et c'est quelque chose qui m'a manqué aussi personnellement. Et donc, quand j'ai instauré ces goûters avec les parents, et que j'ai essayé justement de creuser, sans que ce soit forcément intrusif, hein, mais voilà, d'essayer de proposer un cadre, en plus à l'école, etc., à travers un goûter, pour pouvoir proposer aux parents de raconter leur vie. Il y a l'échange entre moi et les parents, mais il y a aussi du coup un échange qui se fait entre les enfants et les familles. Et pour le coup, c'est un espace de parole qui marche plutôt bien, de ce que j'ai vu. Ce qui est important, en fait, c'est d'essayer de valoriser leur histoire et de leur proposer un cadre pour pouvoir en discuter.
Et en fait, le cadre, on l'inverse, parce que quand on fait ça, c'est en fait l'enseignante se met en position de secrétaire apprenante. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que comme le parent sent qu'il est attendu, et qu'on est intéressé par son histoire. Et du coup, le sachant n'est plus l'enseignante. Et les fois où je l'ai fait, tout de suite, les parents ont parlé d'abord de leur parcours migratoire. La carte, j'ai trouvé que c'était un bon support parce que juste afficher la carte et que bah, ils indiquaient de quelle région ils étaient, l'année où ils sont venus en France, etc. Et en fait, on tire le fil petit à petit. Et puis, moi, ce que je remarque aussi, c'est que elles s'adressaient à moi avant de s'adresser à leur enfant. Mais du coup, l'enfant entend une histoire qu'il n'aurait pas entendue chez lui. Et notre rôle, c'est après de faire le lien et de regarder l'enfant, ce que je faisais. Et puis, j'essaie de... Enfin, voilà, que ce soit une conversation à trois où moi, j'ai une posture où je suis en retrait. Et du coup, très souvent, en fait, ce qu'on remarque, enfin, moi, je voyais les élèves avec des grands yeux, ils disaient, ah bon, qu'est-ce que c'est? Enfin, ils apprenaient des choses sur la colonisation, etc. Mais ça demande du temps, ça demande de la confiance, et c'est pas en un rendez-vous. C'est moi qui prépare le goûter, je préparais un thé à la menthe, je faisais les gâteaux, etc. Ils venaient, et en fait, au début, ils faisaient les gros yeux, bah, qu'est-ce qu'elle veut que je raconte? J'ai rien d'intéressant à raconter. Ils partent avec cette idée-là. Et alors que moi, quand je suis là, j'attends, je dis, ah oui, tout ça, et juste, de montrer un médium, on s'est retrouvé avec, je sais pas, moi, énormément de choses. Même il y a une maman qui m'a chanté une chanson haïtienne, révolutionnaire, etc. Sa fille l'entendait pour la première fois. Je pense que l'école, justement, ça peut être un bon endroit où tout à coup, là, la parole peut se libérer. Mais il faut aussi avoir un regard bienveillant, déconstruit, enfin, essayer au maximum, hein, je veux dire. Voilà.
Moi, je suis prof dans le second degré de sciences économiques et sociales. Et même si ce n'est pas les mêmes objets d'enseignement et tout, je me reconnais beaucoup dans ce que vous êtes en train de dire, dans l'idée de ne pas mentir, qu'à l'école, en fait, on puisse aborder les questions de rapport de domination, etc. Je pense que c'est un peu au cœur des pédagogies antiracistes, parce qu'en fait, moi, je suis face à des élèves qui expérimentent le racisme, qui ont des choses à raconter à ce sujet, qui, par ailleurs, se renseignent, sont informés via les réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, d'un autre côté, à l'école, on fait comme si ça n'existait pas. Et dans ma discipline, qui est les sciences économiques et sociales, c'est des questions qui apparaissent très peu. Alors même que les sciences sociales, comme c'était dit au début, c'est des outils qui permettent normalement justement de comprendre, d'analyser et de s'outiller sur ces questions de rapport de domination. Je pense que au cœur des pédagogies antiracistes, l'idée de partir des expériences des parents ou des élèves, en fait, ça peut constituer des bases pour l'apprentissage et un peu renverser ce rapport très hiérarchique et vertical, comme si nous, on savait tout et qu'on avait juste à déverser. Ça, c'est dans l'article où, avec ma collègue Manel Benboubakar, on parle d'un club égalité qu'on a monté, où on s'inspire des pédagogies de Bell Hooks, qui dit très bien que l'enseignement, il ne s'agit pas juste de déverser des informations et des savoirs, mais que les expériences des apprenants et des apprenantes peuvent servir de base pour les apprentissages. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois les sciences sociales. Alors, les expériences sont importantes, mais c'est aussi important de donner à ces expériences un caractère un peu plus systémique et de montrer que en fait ces expériences-là, elles sont pas juste individuelles, elles ont lieu dans un truc qui est systémique, qui est collectif. Entrer en pédagogie antiraciste, c'est se dire que justement en tant que parole institutionnelle, on a ce pouvoir-là que d'inscrire des expériences individuelles dans des cadres plus collectifs. Et dans des cadres aussi historiques, c'est-à-dire c'est pas juste aujourd'hui en 2023 que il y a un souci, mais en fait faire le lien avec l'histoire coloniale, esclavagiste, etc., etc. Et par ailleurs, une fois qu'on a compris que il y avait un souci systémique, une fois que on a compris qu'on n'était pas tout seul, etc. Montrer que ce qui a toujours fonctionné justement pour transformer la société, c'était les luttes collectives. Et du coup, avec ma collègue, dans ce club égalité, on accompagne les élèves dans justement leur mobilisation, dans leur espace du quotidien et qui est l'un des principaux espaces fréquentent, qui est l'école. Et en fait, c'est pas possible que l'école ne soit pas un espace d'expression politique aussi, parce que les élèves, en fait, traversent ce que nous aussi on traverse en tant qu'adultes, ce qui nous aussi nous embête en tant qu'adultes. Et en fait, y a peu d'espace pour que ce soit exprimé. Donc voilà ce que je peux dire sur les pédagogies antiracistes dans le second degré. Vraiment l'idée de ben voilà, d'outiller et d'être dans une posture un peu transformative et de se dire qu'en fait, par le collectif et par les luttes, les personnes dans une situation de domination se sont toujours battues, ont toujours lutté. Et en fait, il faut continuer à le faire pour espérer changer la société, que le monde social n'est pas figé. Voilà.
En fait, j'entends la difficulté qui est de parler de ces sujets. En fait, le trauma colonial, il est là et il se transmet de génération en génération. Donc, ce qu'ont vécu nos parents, en fait, on le porte en nous, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Je sais que moi, j'ai mis énormément de temps à demander à mon père comment il était venu en France, pourquoi il était venu en France, dans quelles conditions il avait vécu en France, etc. Et je pense que c'est profondément lié à l'école. On sait qu'on vit dans une société qui est basée sur un projet colonial, raciste, impérialiste, capitaliste. Et en fait, l'école, c'est le microcosme de ça. Donc tout ce qu'on vit dans la société s'exprime dans l'école. Et en même temps, tous les messages sont envoyés aux élèves pour dire, en fait, vous êtes à l'école, mais l'école, elle n'est pas pour vous et elle n'est pas faite pour parler de vous, en fait. Vous êtes là pour combler un marché du travail, certaines parties quoi, de ce marché du travail, et pas pour autre chose. Les élèves, eux, ils arrivent avec le fait que, en fait, on ne va pas parler d'eux et à aucun moment on va parler d'eux. Et en même temps, avec cette douleur qui est que ben, quand on parle d'eux, c'est très compliqué parce que comment aborder ce sujet-là qui reste un traumatisme dont ils ont hérité. Il y a un truc qui fonctionne, par exemple, mais là, c'est très propre à ce que je fais, moi, en anglais. Le premier chapitre qu'on fait en troisième, c'est on étudie l'histoire des autochtones d'Amérique, quoi, les Native Americans. Et en fait, j'essaye tout le temps de faire des parallèles. C'est une histoire du colonialisme, en fait, ce qui s'est passé. Et d'eux-mêmes, en général, ils font des liens entre ce qui s'est passé en Amérique du Nord et ce qui s'est passé en Afrique. En sachant qu'au collège, la colonisation, c'est pas un mot qui est clair. Hein. Ils arrivent pas en ayant une définition de la colonisation. Parfois, je fais un peu ce jeu de leur demander est-ce qu'ils savent ce que veut dire ce mot, et c'est pas tous qui arrivent à définir ce mot, et c'est normal. C'est, en fait, ils arrivent au collège, ils l'ont presque pas entendu, ce mot. Il n'était pas dans les programmes scolaires d'avant, c'est compliqué. On leur a plus parlé de grandes découvertes, on leur a parlé de voilà. Et en plus, quand on sait que on a des politiques qui parlent des aspects positifs de la colonisation, etc. Enfin, les élèves, ils arrivent, ils ont pas du tout une vision claire de ce que c'est que la colonisation. Et de parler de ça, de vol des terres, de parler d'esclavagisme, de parler de tout ça, en fait, tout de suite, ils font un lien. Et c'est une manière un peu détournée de parler de choses qui sont, en fait, intimes et personnelles et éminemment politiques et difficiles à aborder. Et pour vous donner un exemple, parler avec les élèves des violences policières, c'est à la fois une réalité quotidienne pour eux et à la fois extrêmement difficile parce qu'il y a quelque chose qui relève de la honte. On leur renvoie cette idée que s'ils sont fait contrôler par la police, c'est de leur faute, c'est la honte en fait. Récemment, je leur ai posé la question sur qui s'était fait contrôler par la police, etc. Et il y a eu un fou rire gêné de tous en fait, parce que c'était hyper compliqué pour eux de parler de quelque chose qui vivait dans leur chair, ce que renvoie la société, c'est-à-dire ce truc un peu de si tu l'as vécu, c'est que c'est de ta faute. Et c'est ce qui se passe à l'école aussi, quand on parle un peu de méritocratie, c'est si tu n'arrives pas à l'école, c'est que c'est de ta faute. Égalité des chances, pareil, enfin voilà, tous ces concepts vides de sens et qui renvoient la faute sur l'élève, qui renvoient à une question d'individualité, alors qu'on est sur des questions qui sont systémiques. Je sais pas si ça répond à la question, mais peut-être passer par des parallèles, ça peut aider aussi.
Et il y a quelques personnes racisées, il y a une majorité blanche. Et en fait, grâce aux réseaux sociaux, ils sont très alertes et ils sont très au courant. Ils savent qu'ils ont conscience un peu de la valeur des mots et de ce que ça veut dire. Et ils entendent très bien ce racisme qui était ordinaire. Moi, quand j'étais au lycée, ça passait tranquille, mais plus maintenant. Les personnes racisées, j'ai confiance en eux. Mais en fait, le problème, c'est les dominants. Et en fait, comment on les gère, cela ? c'est un réel problème parce que quand je discute avec des personnes racisées, le discours se fait tranquillement et normalement, mais en fait quand je vais essayer d'avoir un discours antiraciste à des personnes blanches, j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est qu'ils sont attaqués eux en tant que, on m'a quand même sorti la phrase du racisme anti-blanc, ça sert, et en plus j'ai aussi, moi, un rapport de domination face à eux. Je suis pas élève, ils sont mineurs. Comment en parler avec eux En fait, malgré moi, je me retrouve à les rassurer. Mais en fait, c'est pas eux qui sont importants dans ce débat-là, c'est leurs camarades qui se prennent du racisme quotidiennement, et en fait, personne ne dit rien, personne ne réagit. Et en fait, quand on réagit, on se retrouve face à des élèves virulents qui s'indignent de racisme anti-blanc ou juste...
Mais elle parle des élèves.
Ah, pardon.
Oui. Du coup, ça pose la question de quelle définition, et ça, c'est le même problème qu'on rencontre aussi avec les adultes, mais là, ce sont des enfants, et en fait, nous, on est adultes vis-à-vis... Enfin, c'est, du coup, c'est le travail de pédagogue, mais du coup, c'est définir qu'est-ce que c'est l'antiracisme politique et l'antiracisme moral. Il faut travailler là-dessus, expliquer, en fait... Je pars du principe que les enfants... Mais ils ont une intelligence, une éthique que souvent les adultes n'ont pas ou perdent en cours de route. Mmh. Ça m'est déjà arrivé quand on parle, en tout cas, ou que je lis des histoires qui parlent de racisme, etc. Par exemple, sur le fait d'avoir les cheveux frisés au crépus, qu'on se fasse toucher les cheveux et que c'est une agression raciste et que du coup, c'est une enfant blonde et qui me dit « Ah, moi aussi, on me touche les cheveux ». Mais du coup, c'est la question du consentement aussi. Mais est-ce que c'est raciste ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, de la même façon qu'on le dit, nous, dans plein de chapitres, qu'il faut donner du vocabulaire, qu'il faut donner les mots, qu'il faut définir les concepts. Très souvent, en tant qu'adulte, on est tétanisé par d'autres adultes. Enfin, souvent, on est entouré de personnes qui vivent le déni, qui le maintiennent. Mais je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos élèves. On peut dire qu'on a peur, ça fait peur. Mais il ne faut pas s'empêcher de travailler sur ces concepts-là et que, en fait, on n'a pas peur d'enseigner à nos élèves des équations trigonométriques quand on est prof de maths, qui est quand même quelque chose de complètement abstrait. Pourquoi on aurait peur de définir qu'est-ce que c'est avec nos élèves l'antiracisme moral et quand c'est systémique, etc. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre, mais... C'est des termes à définir.
La configuration de la classe que tu décris, elle est assez différente des classes qu'on a, nous. On a en majorité des élèves racisés. Mais c'est la même chose qu'on dit à nos collègues. C'est qu'en fait, dire que la société est raciste, c'est pas des attaques qui visent les individus. C'est juste regarder objectivement qu'en fait, quand on est perçu comme blanc ou blanche et qu'on recherche un emploi, par exemple, et en fait, il y a des chiffres qui disent ça de façon très concrète et très... Enfin, réel, qui peut nier que en fait un CV avec un nom blanc, en fait, et il y a un exemple très concret dans le bouquin là-dessus, même en étant moins qualifié, en fait, il reçoit plus de réponses qu'une personne avec un nom racisé. Il s'agit pas d'être d'accord ou de pas d'accord, c'est juste de regarder que objectivement, le fait d'être racisé, ça conditionne l'accès aux ressources, et que le fait d'être une personne blanche dans une société raciste, ça va donner des avantages. Et du coup, faire cette entrée par le privilège blanc, peut-être que c'est une façon de parler de racisme avec ces élèves blancs qui, en fait, sont dans l'équation aussi quelque part, puisque si il y en a qui sont désavantagés, ça veut bien dire qu'il y en a qui bénéficient de ça. Et en fait, le racisme, c'est pas juste une face, en fait. Il y a forcément des personnes avantagées et des personnes désavantagées. Donc ouais, peut-être passer par des chiffres très concrets, des testings, c'est un outil qui est imparfait, mais qui quand même donne des chiffres, et on aime bien les chiffres, ça convainc, les chiffres, ça donne de l'objectivité, donc peut-être que passer par là, ça peut calmer un peu le truc, je sais pas.
Le souci, et c'est ce qui découle tout droit de ce système raciste, le souci c'est que enseignants, mais AED aussi, en fait, enseignants non blancs, on a des statuts intermédiaires. En fait, on est entre les élèves et les profs blancs. C'est-à-dire qu'on n'est pas considéré comme des profs blancs à part entière. On a toujours cette suspicion un peu de profs qui vont forcément être du côté des élèves, parce que forcément on se ressemble, qui ne vont pas faire totalement partie de ce corps bien soudé qui est celui des enseignants. Et les AED, c'est encore pire, parce que c'est une situation qui en plus est en dessous, on va dire hiérarchiquement, des profs, et donc une situation en plus précaire, etc. Et je pense que dans les stratégies à mener, ce genre de propos pour un élève blanc, ça devrait être à un prof blanc de lui dire, ou même à un AED blanc de lui dire, en fait. Et c'est là que la question de comment les personnes blanches qui doivent se conscientiser sur ce dont elles bénéficient, etc., comment elles ont un rôle à jouer dans cette lutte contre le racisme. Quand on parle de lutte contre le racisme, encore une fois, on n'est pas dans un racisme moral, on est dans ce qui crée le racisme moral et qui est le racisme systémique. Et notre parole à nous, mais même prof, prof AED, même combat, sauf la question de la précarité, mais dans la perception en tout cas que les autres ont de nous, et moi combien de fois fois, on m'a dit « Mais vous êtes AED ?» Mais vous êtes... La dame de l'accueil de mon collège, tous les matins pour m'ouvrir la porte, elle me demande si je suis l'AED du collège. Ça fait 8 ans que j'enseigne dans ce collège. Mais bon. Dans la perception qu'on a, en fait, notre parole, par rapport à un élève blanc... Et effectivement, nous, on n'est pas dans les mêmes réalités, parce que c'est vrai que nous, on a des élèves à majorité non blancs. En fait, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça veut dire qu'on n'est jamais perçu comme étant à notre place, en fait. On n'est jamais légitime.
Oui, c'est ça. Et qu'on est décrédibilisé, en fait, par notre face.
Voilà, exactement.
En fait, sauf que. Un blanc qui va parler, qui va dire quelque chose, peut-être
qu'il
est crédibilisé. Moi, non.
Ouais.
Mais en fait, si moi, je ne le fais pas, l'autre, il ne va pas le
faire. Ouais, donc peut-être que la stratégie, c'est que toi, tu passes par un autre adulte blanc, parce que l'élève blanc face à un adulte blanc. Je pense pas qu'il ait la même réaction. Et là, on parle de stratégie.
Moi, j'ai été AED il y a 20 ans, dans le Haut-Var, dans un collège. Je l'ai avec des propos racistes assez dingues. Et par rapport à ça, cette question-là, elle n'est pas si simple. Enfin, je ne suis pas certaine en fait que quand des enfants entendent des propos racistes dans leur famille toute la journée, quand ils arrivent au collège et qu'ils tiennent ces propos racistes, mais je ne suis pas certaine que ce soit aussi efficace que ça quand même.
Enfin, quand des enfants blancs tiennent des propos racistes ouais. Devant des adultes blancs, c'est ça?
Oui, et d'autres, d'autres adultes racisés, éventuellement, voilà, c'est le cas en effet, mais la parole du personnel éducatif ou enseignant, dans ces cas-là, si les parents sont complètement entendent des idées racistes et qu'ils les bâtardent toute la journée, avec l'adulte, qu'ils soient racisés ou pas, qui dit qu'on ne va pas parler comme ça, et que c'est des idées qui n'ont pas leur place ici, et etc., je ne suis pas certaine que ce soit plus efficace.
Moi, ça m'arrive de dire devant mes élèves que je ne suis pas d'accord avec les adultes. Je me vois dire, parfois, les parents et les adultes disent des bêtises et que je ne suis pas d'accord. J'ai pas peur de dire que je suis pas d'accord avec le propos d'un parent qui est problématique, que ce soit sur la question de la classe, du genre ou de la race. Mais c'est bien que l'enfant entende ça aussi. Si, ça peut faire bouger un petit peu.
Je peux répondre, mais peut-être que...
Vas-y.
Du coup, non, moi, je voulais juste répondre à ça en disant que c'est vrai que nous, cet ouvrage, il est ancré sur un territoire qui est le 93. J'ai fait mon stage de titularisation ici, dans les Bouches-du-Rhône. Et clairement, le niveau de racisme et de banalisation, j'ai bien conscience que ça n'a rien à voir. Et ce qui se passe ici, c'est... Franchement, moi, je ne souhaite pas revenir, en fait. Vraiment, c'est pas possible, en fait. Et dans le Var, je peux imaginer... dans un contexte où en fait l'extrême droite, enfin en fait c'est chaud quoi, j'ai pas forcément de solution, mais peut-être se dire que tout comme nous on a construit des outils qui sont ancrés dans nos territoires via nos syndicats, peut-être que en fait là il faudrait, enfin on n'aura pas une réponse là aujourd'hui, mais peut-être construire collectivement, se poser, réfléchir. Par ailleurs, je pense à d'autres choses qu'on m'avait dit aussi de camarades ici, des idées suprémacistes, etc., à quel point elles sont les élèves les portent en fait. Et je pense qu'il y a peut-être un truc collectif à mener, un travail collectif. Comment est-ce qu'on fait face à cette banalisation des extrêmes droites dans les établissements scolaires? Peut-être que, il n'y aura pas une seule réponse, mais en tout cas, c'est sur le temps long. Comment est-ce qu'on construit ces outils-là collectivement?
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non,
C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise. Elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouille entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes, anti-rap sur la FM. Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes. Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Celle qui regarde du l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés. Celle qui pue le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte. Cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent Jean. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
Déjà, il y a un article dans le bouquin sur comment est-ce qu'on se soutient entre personnes racisées. Comment est-ce qu'on se met en contact aussi avec des personnes qui veulent porter un petit peu les mêmes pédagogies, etc. Comment est-ce qu'on n'est pas seul face à ça? Comment est-ce qu'on en parle? C'est déjà un truc qui permet de sortir de l'isolement et de créer du collectif. Mais je pense que nous, si on est assis là, c'est parce que justement on a réfléchi collectivement et qu'on arrive avec un travail qui est collectif, mais ancré dans un territoire et que peut-être que, enfin, ici c'est chaud en fait et il y a vraiment un truc à faire. Ouais, sur l'extrême droite, comment on fait quand, en fait, les élèves, ils sont dans des familles d'extrême droite, en fait. Je sais pas, hein, mais... Bon courage.
Je peux dire un petit truc, moi, ça me fait penser... Je vais faire le parallèle sur le féminisme, parce que j'ai eu un cas, en fait, dans ma classe, en premier degré, hein, où il y a eu un jour un conflit sur le ballon. Parce que les filles voulaient jouer au ballon, et en fait, les garçons n'ont pas voulu prêter la balle, le ballon. Et du coup, la phrase qui a été dite, c'est « Oui, on vous la prête pas. On vous prête pas le ballon parce que vous ne savez pas jouer au ballon. » Ce qui a heurté les filles et qui ont dit, et on a une qui a dit « C'est normal, on ne sait pas jouer parce que vous gardez tout le temps le ballon, donc on ne pourra jamais apprendre, en fait, à la récréation. » Et du coup, il y a eu conflit parce que les garçons ils ont dit « Non, c'est pas vrai. » En fait, là, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on fait tous ensemble ici. On a parlé de Freinet, de Bell Hooks, mais aussi la pédagogie Paulo Freire qui est porté sur la pédagogie de l'opprimé. En fait, c'est pousser les élèves à devenir leur propre, à être sociologues de leur environnement. Et peut-être quand il y a conflit comme ça, mais de proposer un projet, de faire une étude sociologique sur le collège ou sur l'endroit où ils sont. J'ai pas les outils, mais comme elle a dit Maliga, à inventer, à réfléchir sur... en fait, là, on va observer l'environnement, on va voir tout ce que nous, on a constaté quand on regarde nos manuels, dans nos vécus, etc. Mais questionner les vécus des élèves et de voir, en fait, est-ce qu'il y a un racisme systémique qui s'opère au sein de l'établissement? Et là, en fait, il n'y a personne qui peut nier, on a des preuves. Après, ce n'est pas un projet qui se fait en une séance ou quoi, c'est un projet qui se fait sur l'année et ça peut, en fait, aboutir à une charte, à quelque chose. Et là, on donnerait la parole aux opprimés qui vivent, parce que là, du coup, c'est prouvé. Bah, du coup, les personnes concernées, c'est, on leur demanderait, en fait, ce dont elles ont besoin. Enfin, voilà, on construit, du coup, une lutte que, normalement, on est censé construire dans nos espaces militants et dans nos vies de tous les jours, en fait.
En fait, moi, je nuancerais le propos en disant que il faut pas oublier que nos élèves, c'est des enfants. Et c'est des enfants en construction, qu'ils soient blancs ou pas. C'est tous des enfants en construction. Et nous, on a énormément d'amour pour nos élèves, qu'ils soient blancs ou pas blancs. Et ce qu'on veut, c'est quoi notre objectif? C'est de révolutionner la société. Enfin, c'est d'agir en profondeur, en fait. Donc oui, il y a la question du rappel à la loi. Et pour le coup, et du SCOL, etc., il y a énormément de ressources sur le racisme moral. Il ne faut pas insulter ses camarades, machin truc, etc. Mais ce que nous, on pointe, c'est que les causes, la source de ça, c'est quelque chose qui est invisibilisé par l'institution, en fait. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on agit sur les, plus ou moins, encore une fois, sur les conséquences, et que les conséquences en surface, mais jamais sur la cause. Ces élèves-là dont vous parlez, moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que d'avoir une personne blanche qui leur dit le racisme blanc, ça n'existe pas, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, ça n'a aucun impact sur eux. Je parle en général. Je pense que c'est extrêmement important pour eux d'avoir des gens comme eux, à qui ils s'identifient, qui leur tiennent ce genre de propos, et qui leur disent, bah, le racisme blanc, ça n'existe pas. Et là, c'est pas un arabe ou un noir qui te le dit pour rentrer dans ta tête. Là, c'est quelqu'un comme toi qui te le dit. Et la parole des adultes à l'école, elle a énormément d'importance. Elle a énormément d'importance. On voit nos élèves plus que certains parents ne les voient parfois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas minimiser. Même si chez eux, ils sont nourris, etc., ils sont abreuvés de propos ou de comportements racistes, l'école, c'est l'endroit de la transformation pour eux, c'est l'endroit de la construction pour eux. Et justement, nous, on lutte pour que cette transformation et cette construction, elles se fassent sur des bases justes, dignes, égalitaires et antiracistes, en fait. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, lutter en surface avec un rappel à la loi, etc., mais ensuite, lutter en profondeur en lui disant bah, ce que tu entends à la maison, d'où ça vient, en fait. C'est quoi les bases de ce racisme systémique? Pourquoi chez toi? Pourquoi tes parents? Et là, je rejoins ce que disait Houyem. Il faut qu'on dise aux enfants que tous les adultes ne sont pas forcément d'accord, que les adultes peuvent se tromper, que les adultes peuvent mentir. D'ailleurs, quand je vous parlais tout à l'heure de quand j'enseigne le premier chapitre sur les natifs américains, la première réaction des élèves, c'est de dire mais du coup, on nous a menti. C'est à chaque fois, hein. C'est mais du coup, on nous a menti. Et je dis, bah oui, en fait, oui, les programmes scolaires peuvent mentir, en fait, ça existe. C'est possible. Ça choque, c'est vrai, mais c'est possible. Et ça remet en question énormément de choses. Et même si l'élève, sur le moment, il fait un peu le malin, le fier, etc., où il continue à avoir des propos racistes, en rentrant chez lui, ça va travailler, c'est sûr et certain. Je pense que c'est sur ça qu'il faut miser, sur le fait que nous, on est vraiment là pour transformer quelque chose. Et pour moi, ce livre, c'est vrai qu'on l'a créé dans un contexte et sur un territoire donné, mais pour moi, il est valable partout, en fait. Il est valable partout en France et même dans les ex-colonies départementalisées, parce qu'on en parle très peu. Mais là-bas, il y a un racisme systémique incroyable, avec des élèves qui ne peuvent pas avoir école toute la journée parce qu'en fait, il y a zéro moyen qui sont mis. À Mayotte, ils doivent faire des roulements. Ils ont école soit le matin, soit l'après-midi, parce qu'en fait, ils ne sont pas considérés par l'institution. C'est incroyable. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est vraiment revenir à chaque fois sur un propos politique. Et je sais que c'est extrêmement dur, mais à chaque fois, revenir sur un propos systémique, c'est sortir de l'individualité. Sortir du fait que toi, individuellement, c'est toi le problème. Et l'enfant qui est blanc, je pense que c'est important aussi de lui dire, bah, tu fais partie d'un système. Tu fais partie d'un système dont tu es bénéficiaire, mais tu fais partie d'un système quand même. Parce que je sais que c'est très difficile aussi pour les enfants de s'entendre dire qu'ils peuvent avoir des pratiques racistes. C'est très difficile, ça crée des choses chez eux, c'est incroyable. Mais le fait de sortir de cette individualité-là, je vais y arriver, et de dire qu'il fait partie d'un système et qu'il l'a construit, ça permet de débloquer des choses. Et de revenir à un propos politique, c'est quoi aussi? C'est de dire, en fait, à quel moment, et c'est ce que je disais du coup à la collègue qui a aidé, à quel moment les Blancs, ils se mouillent dans ce combat? Parce qu'en fait, quand on parle de racisme, tout le temps, on se tourne vers les non-blancs, en fait. Du coup, ça, c'est du racisme, c'est toi, vas-y, va, lance-toi, va au front. Par exemple, on a eu des cas d'islamophobie dans mon établissement l'année dernière. Quand on a entendu parler de ça, tout le monde s'est retourné vers moi. Il m'a dit, go, c'est ton moment. Genre. Non, en fait, c'est pas mon moment. Ça devrait être le moment de tout le monde. Ça devrait être la lutte de tout le monde. Et à quel moment les Blancs se sentent concernés par ça? Et à quel moment les Blancs s'emparent de ça? Parce qu'ils sont quand même bénéficiaires de ce système-là. Et les premières personnes qui devraient se mouiller dans ça, c'est eux. Les premières personnes qui devraient monter dans le combat, c'est eux. Parce que les personnes non blanches, elles perdent quotidiennement. Elles perdent leurs emplois, elles perdent leur situation, elles perdent de l'argent. C'est les personnes les plus exposées, les plus précaires. Et ça ne devrait pas être à elles de porter seules le combat. Donc c'est pour ça que quand je dis à la collègue, en fait, c'est peut-être pas à elle de dire ça. C'est que, en fait, quelque part, outre le fait que sa parole, elle va être dévalorisée, etc., etc., c'est qu'à un certain moment, en fait, on peut pas bénéficier de quelque chose et faire comme si de rien n'était et dire bon, c'est tranquille, allez-y, les non-blancs, occupez-vous de vos problèmes à vous. C'est, encore une fois, on parle de racialisation, etc. Les blancs sont racisés, mais ils profitent d'un processus de racisation ou de racialisation favorable. Mais ils sont racisés, en fait. C'est important de remettre les choses en contexte, parce que maintenant, on entend beaucoup de gens dire « oui, vous les racisez », comme s'ils n'étaient pas concernés. Ils sont concernés par le racisme, mais ils en bénéficient. Et ça, c'est toujours important de le réinscrire dans le cadre des luttes. Et après, ça donne lieu à des outils très concrets qu'on peut développer localement. Mais c'est extrêmement important de toujours recadrer ça et de se dire qu'en fait, on a des enfants en face de nous. Et ça, on l'oublie très souvent. Et on l'oublie encore plus pour les enfants non-blancs qu'on criminalise, qu'on traite comme des adultes, qu'on dépossède de leur enfance parce que eux, ils ont pas le droit de rire pendant une minute de silence, ils ont pas le droit de dire certains mots. Là, justement, aujourd'hui, on m'a contacté parce que il y a un cas de, je vous raconte ça comme ça, vous avez l'anecdote aussi, mais c'est extrêmement grave. On m'a contacté parce que il y a un élève qui va passer en conseil de discipline. C'est un élève qui est joueur, qui est blagueur, etc. Et en fait, son activité favorite, c'est de courir dans les couloirs et d'ouvrir les portes pendant les cours. Peut-être certains ont connu ça. Tous les enfants font ça en réalité. Et en fait, il a ouvert une porte, il a crié « Allahu Akbar » et il a fermé la porte, il est parti en courant. Et il passe en conseil de discipline, là c'est la partie moins drôle, pour... Son conseil de discipline, c'est mardi, et il va passer pour apologie du terrorisme. C'est vous dire à quel point, en fait, on retire aux enfants vraiment leurs caractéristiques d'enfant. Voilà.
C'est quoi ton origine? C'est quoi ton origine? Mais sinon, t'es de quelle origine? T'es de quelle origine?
C'est quoi ton origine?
Moi, ça me gênerait pas qu'on me demande mon origine. Vous êtes vraiment susceptibles, vous autres. Faut pas exagérer, y a rien de raciste dans le banania, ça va quoi?
Bonjour. Je te connais pas, mais...
Bonjour.
T'es excisé?
Je te connais pas, mais... Est-ce
excisé
que t'es excisé? Et puis, t'es de quelle origine, sinon?
Mais sinon, tu viens d'où? T'es de quelle origine?
T'es excisé ou pas? Mais tu viens d'où sinon? Tu viens d'où en fait?
Quand y'en a plus, y'en a encore, j'adore. Quand tu ne fais aucun effort, jamais tu ne t'excuses, toujours tu abuses, parfois tu as honte de toi.
Y a pas de raison qu'il y ait des comportements racistes, hein, on est entre nous. Mais au cas où, c'est bon, on te protégera. Te fais pas dîner noir pour ça. Je rigole.
Je rigole.
Je suis pas raciste, tu sais, hein.
Je suis pas raciste.
Je suis noire à l'intérieur.
Je suis noire à l'intérieur.
Je peux toucher tes cheveux?
Oh oui.
Je peux toucher tes cheveux? Je peux toucher tes cheveux, je peux toucher tes cheveux. Est-ce que je peux... Oh, c'est doux, hein. Est-ce que je peux toucher tes cheveux, ça te dérange pas?
Ils ont l'air doux.
Que je te touche les cheveux?
Pour les collègues, j'ai deux réponses en fait. Pour le coup, moi je pense que quand on sent la force de le faire, la pédagogie, ça peut être intéressant. Moi, j'ai vu des choses changer, en tout cas personnellement, dans l'école dans laquelle j'étais, sur les questions raciales. Parce que à partir du moment où j'ai justement invité les parents au sein de l'école, etc., et que les collègues ont vu que ça prenait et qu'ils s'en dégageaient des choses hyper intéressantes, on a pu aborder ces questions-là avec les collègues et j'ai vu quand même qu'il y avait des personnes qui voulaient savoir et qui se questionnaient sur ça. Je vais dire aussi que dans le syndicat, en réalité, on a vu aussi nos collègues changer parce que en 2017, quand on a commencé à proposer ces stages antiracistes, il y a eu des débats internes. On a dû, en tout cas, expliquer ce que ça voulait dire être blanc, parler de privilèges blancs, etc. Et ça a mis du temps, mais on a quand même réussi à avoir, faire ce stage-là, à écrire ce livre-là. Donc, du coup, on a vu quand même des choses changer aussi de l'intérieur. Là, on était un peu en tournée dans plusieurs villes de France. Je sais pas, Saint-Étienne, il y a Sud Éducation de Saint-Étienne qui nous ont dit que ça a aussi changé des choses, des lignes politiques au sein de leur syndicat aussi. Voilà, après, pour rester quand même moins optimiste, je pense sincèrement que la question raciale est hyper difficile à adresser en France encore. Je pense sincèrement que, par exemple, les questions de genre sont beaucoup plus faciles, en tout cas, à discuter. Par exemple, au sein de l'INSPE, ex-UFM, donc l'endroit pour former les enseignants et enseignantes, on commence en fait à avoir des cours qui nous proposent de travailler avec les élèves sur les questions de genre. Jamais de race. Toujours pas de race. Donc ça veut bien dire qu'il y a vraiment un souci, en tout cas dans ce pays, pour adresser les questions raciales. De toute façon, je pense que vous le savez. Mais voilà, moi je reste quand même plus ou moins optimiste parce que personnellement, et je pense qu'on a pu le voir, on a vu quand même des choses changer politiquement et on espère que ça continuera.
Vous venez d'écouter l'enregistrement d'un bout de la présentation du livre « Entrée en pédagogie antiraciste » qui a eu lieu le 24 novembre 2023 au local de Solidaire. Merci à Madiga, Karim, William et Wihem pour ce partage d'expériences, d'outils de lutte contre le racisme systémique dans l'éducation nationale. Je vous engage vraiment à lire ce livre publié par Shell Éditions, qui est une mine d'or sur ce sujet. Pour être au courant des autres événements organisés par la librairie Transit, vous pouvez regarder sur leur site. Alors, pendant cette émission, les pauses musicales, c'était d'abord la chanson des enfants des quartiers nord, qui a été créée dans le cadre d'un projet pédagogique à Marseille dans les années 80. C'est une façon artistique et créative de proposer aux enfants d'être apprentis sociologues de leur environnement. Et c'est une chanson qui est devenue une chanson phare pour les marcheurs et marcheuses de la Marche pour l'égalité de 1983. Ensuite, c'était « Ma France à moi » de Diams, qui malheureusement n'a pas pris une ride. Et enfin, une autre façon de faire de la pédagogie antiraciste, avec l'humour cinglant de Pré-Trapier Biche, avec un remix de « Problème de Blanc », sa chanson. Vous pouvez écouter d'autres morceaux de Pré-Trapier Biche sur son Bandcamp. Et on finit avec « La pêche et l'espoir » de « Yes We Can Can » des Pointer Sisters.
Make this land a better land than the world in which we live. We gotta help each man be a better man.
Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain dans Libre Débat. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Restez à l'écoute de Radio Galère, car dans quelques minutes, c'est l'heure de Une heure en Palestine, comme toutes les semaines. Libre Débat. Reportages, plateaux radio ou sons glanés sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4.